RCF.
Marie Skoptsov, sainte orthodoxe, juste parmi les nations, elle est celle qui a sauvé de nombreux juifs. Elle est une sainte aujourd'hui chez les orthodoxes et elle vous a passionné, Laurence Varro. Bonjour.
Bonjour Madame Vatel.
Toute cette semaine, vous nous en parlez. Aujourd'hui, on revient sur Marie Skoptsov, moniale, qui, au sein d'une grande bâtisse de la rue Lourmel, va, au moment de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Juifs doivent porter l'étoile, va commencer à faire de faux certificats de baptême, va cacher des Juifs, elle va s'impliquer dans le secours des persécutés, des futurs persécutés, elle va s'impliquer dans la lutte contre la persécution des Juifs, et notamment, précisément, en 1942, Laurence Varro.
Oui, celle qui était Elisabeth Skoptsov, du nom de son second mari, est devenue donc en 1932 Mère Marie, son nom de consécration comme moniale. Pourquoi Mère Marie? En référence à Sainte Marie l'Égyptienne, qui, une sainte des premiers siècles, qui après une jeunesse passée dans la débauche, est devenue une sainte. Et en 1942, les choses se resserrent et a lieu ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv, qui a consisté à rafler un maximum de juifs, beaucoup dans l'Est parisien, pour les enfermer dans le Veldiv avant de les envoyer à la déportation. Or, le Veldiv, qui n'existe plus, qui est maintenant ce qu'on appelle le site Nélaton au ministère de l'Intérieur, dans le 15e, était tout près de la rue de Lourmel. Et donc, en 10 minutes, elle est là-bas à pied. Il y a d'ailleurs beaucoup de religieux qui se sont présentés au Veldiv.
Parce qu'on les laisse entrer, en fait.
Parfois, on les laissait entrer. Comme il n'y avait pas de précédent d'une situation pareille, les forces de l'ordre étaient un peu dépassées par la situation, il faut quand même le dire. Et elle s'est présentée, elle était très grande physiquement, elle savait s'imposer, elle était polyglotte, ce qui lui servira plus tard. Et donc elle a impressionné les gens et elle a dit, bon écoutez, moi je rentre, bon on va laisser une bonne sœur rentrer. Hein. Donc elle rentre et elle fait des allers-retours. Elle va sortir, elle s'occupe des gens et elle va sortir 3 enfants en les faisant passer dans des poubelles. Elle va oser faire ça. Et quand elle rentre, elle est épuisée de ce qu'elle a vécu.
Il faut redire quand même que les Juifs étaient à ce moment-là, toutes les personnes qui avaient été raflées étaient à ce moment-là sans nourriture, sans toilette, sans rien, sans eau.
Oui, ils étaient dans une sorte une sorte de camp de concentration. Il y a eu des actes héroïques, évidemment. Les pompiers de Paris, dans le 15e, au Square Violet, je crois qu'il y a une plaque d'ailleurs là-dessus, ont ouvert l'eau pour pouvoir arroser les gens. Enfin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il y a quelqu'un qui a été assez héroïque d'ailleurs, parce que c'était évidemment, ça pouvait être évidemment une source de conflit, mais les pompiers du 15e sont très très bien conduits à ce moment-là.
Alors, Marie Skoptsov poursuit son aide comme ça, de manière ponctuelle, auprès des Juifs qui sont au sein du Veldiv. Et puis, en 1943, elle est dénoncée. La Gestapo débarque rue de Lourmel dans cette grande maison dans laquelle elle accueillait justement un peu les pauvres de Paris, en quelque sorte.
Alors, avant que la Gestapo ne débarque en février 1943 rue de Lourmel, elle a commencé par être convoquée. Parce que quand on veut sadiser quelqu'un, on n'est pas toujours pressé d'aller jusqu'au bout. C'est bon aussi de prendre son temps. Quand on dirige la direction des affaires de l'immigration russe, rue Galliera, de l'autre côté de la Seine. Donc, ils se font plaisir, ils commencent par les convoquer, par les humilier, par demander au père Klépinine pourquoi vous aidez les Juifs, et il emploie une expression beaucoup plus triviale. Et le père Klépinine, qui est convoqué avec Mère Marie, va montrer sa croix pectorale et il va dire « Et ce juif-là, est-ce que vous le connaissez ?» Et donc, ils vont rentrer rue de Lourmel, après quoi, ils ont été trahis, en fait. Ils apprennent qu'ils ont été trahis après son entrée au Veldiv. Et effectivement, le 9 février 1943, les Allemands arrivent rue de Lourmel. Et les choses sont un peu compliquées parce qu'au moment où ils arrivent, il se trouve que Mère Marie n'est pas là. Et donc, ils vont s'emparer de son fils, qui est un étudiant de 20 ans, Georges. Et ils le prennent en otage, en quelque sorte. Donc, elle apprend ça, elle arrive. Et là, ils vont arrêter tout le groupe. Ils vont faire subir une fouille à la Moniale. Ils vont dire à Sophie Pilenko, vous ne reverrez jamais votre fille.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans tout ce que va vivre Maryse Koptsov, elle ne cesse d'être habitée par la foi, c'est pour elle une force. Elle le dit notamment dans un texte où elle explique « Il m'est donné une force qui dépasse mes forces. Sans elle, il y a longtemps que je serais tombée, que j'aurais étendu mon corps sur la pierre, que je pleurerais pour que tu m'entendes et pour que la terre de la tombe soit transie de larmes brûlantes. » Maryse Koptsov, elle est tenaillée par la foi tout au long de sa vie, quelles que soient les épreuves qu'elle va traverser. Là, vous évoquiez 1943 et son arrestation. La suite est terrible.
Oui, je dirais que le texte que vous venez de citer, c'est bien un signe criant de sa sainteté. Mais donner une force qui dépasse les forces, c'est le propre du saint. Parce que les énergies divines sont visibles. Ce à quoi on participe, c'est aux énergies divines, puisque l'essence de Dieu ne nous est pas connue. Elle ne peut pas nous être connue. En revanche, on peut bénéficier des énergies divines par la grâce incréée. Et là, elle le sent qu'elle reçoit la grâce incréée. Elle l'en témoigne dans sa vie, mais même elle l'écrit. Donc effectivement, en 1943, ils sont arrêtés, ils passent par Compiègne. Alors les hommes et les femmes sont séparés et elle sera dans un convoi d'environ 250 femmes qui est envoyée à Ravensbrück. Où là, elle va passer 2 années et où elle côtoiera notamment Geneviève de Gaulle qui dans son livre La traversée de la nuit évoque Mère Maryse Koptsov.
Et qu'est-ce qu'elle a retenu de Mère Marie? Parce que là aussi, elle est remarquée, elle est en train de vivre aussi à Ravensbrück une conversion, elle poursuit sa conversion spirituelle. Sans relâche, elle va consoler, sans relâche, elle va aider les autres à prier. Mère Maryse Koptsov, elle évangélise en quelque sorte, elle continue sa vie de prière, et on pourrait dire aujourd'hui de sainte, au cœur du camp d'extermination de Ravensbrück.
Alors, sa conversion a abouti, si vous voulez, mais simplement là, il y a un accomplissement, effectivement. Ouais. Un accomplissement de sa conversion, puisqu'elle va organiser des prières en cachette, à l'extérieur, à l'intérieur des blocs. Elle va être capable de choses un peu exceptionnelles, parce que j'en ai pas parlé, mais elle avait un don, comme tous les gens doués, elle était douée pour plusieurs choses. Et elle avait un don de broderie, et elle a brodé pendant des appels, en ayant dédoublé des fils électriques de l'usine Siemens pour récupérer des fils de soie. Quand elle a appris le débarquement en juin 1944, elle a brodé un foulard de déportés pour représenter le débarquement dans le style de la tapisserie de Bayeux. Et ce foulard nous a été rapporté par une co-détenue. Donc là-bas, elle a montré ce que c'était que de vivre en chrétienne héroïque. Elle était d'ailleurs pas la seule. Je crois qu'il y avait une supérieure de congrégation catholique qui était là aussi, que Geneviève de Gaulle n'a jamais cessé d'appeler autrement que ma révérende mère, alors que cette moniale catholique était en habit de bagnarde.
Qu'est-ce que Mère Marie a laissé aujourd'hui de cette traversée de l'enfer à Ravensbrück? Comment ces interrogations sur le mal nous ont été transmises?
Le 31 mars, elle est envoyée à la chambre à gaz, où elle a pris la place de quelqu'un, on ne sait pas. Parce que ce qui était un camp de concentration est devenu in extremis un camp d'extermination. Puisque à la fin 44, les Allemands voulaient effacer les traces de leurs crimes et aussi tuer le maximum de gens. Et donc elle meurt en fait à la veille de la libération du camp. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace? D'abord, elle a laissé sa réputation de sainteté extrêmement rapidement, puisque dès 1945, les gens commencent à écrire leurs souvenirs. Donc les catholiques disaient traditionnellement « fama sanctitatis », réputation de sainteté. Et donc, son mari Daniel Skoptsov, le premier mari était devenu d'ailleurs prêtre catholique et vivait en France, mais je ne sais pas s'il y a des écrits, j'en ai pas retrouvé. Sa mère, Théodore Pianov, Constantin Mochulski, le père Bulgakov, tous ceux qui pouvaient ont écrit leurs souvenirs sur Marie et l'ont tout de suite considérée comme une sainte. Ils ont vu que chez elle, les énergies divines étaient visibles, que le corps qui avait reçu la grâce était capable de dépassements inimaginables, qu'elle était devenue comme une icône, elle aussi, comme ceux qu'elle considérait comme des icônes. Il y a d'ailleurs maintenant une icône qui représente Mère Marie et ses compagnons à la suite de la canonisation qui a eu lieu en 2004.
Une femme dont le parcours est à la fois riche de cohérence, mais aussi foisonnant d'aventures et d'une vie spirituelle étonnante. Cette femme, c'est Marie Skoptsov, sainte orthodoxe juste parmi les nations. Elle a sauvé de nombreux juifs. C'est une femme qui vous a passionné, Laurence Varro. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette grande figure spirituelle orthodoxe. On peut retrouver votre travail dans cet ouvrage « Prier 15 jours avec Marie Skoptsov » aux éditions Nouvelle Cité. Je terminerai peut-être par une de ses phrases, la tension nous transformera en torche et la grâce acquise donnera des ailes, son âme sera rétablie dans l'armure d'or des soldats du Christ. Voilà, Marie Skoptsov à découvrir. Merci infiniment Laurence Varro et merci à Pierre-Henri Paget pour la technique. À bientôt.